Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les manifestations de juin 2013 en Turquie, le mouvement Occupy Gezi. Tentatives de coup d'État, attentats récurrents, arrivée de milliers de réfugiés, guerre contre les Kurdes du PKK, à intervalles réguliers, ces derniers mois, la Turquie s'invite au cœur de l'actualité. Une fois encore, ce pays entre deux rives, à la croisée de l'Occident et de l'Orient, la tête en Europe, le corps en Asie, se retrouve au centre des grands enjeux de notre temps, au centre des soubresauts qui secouent le Moyen-Orient. Qu'en est-il également de la Turquie intérieure, de ses dirigeants, de sa nation, de son peuple ? De ce point de vue, les grandes manifestations survenues en juin 2013 apportent un élément de réponse. Pendant 3 semaines, un mouvement démocratique sans précédent a fait vaciller le pouvoir du gouvernement islamo-conservateur de Recep Erdogan. Mais y a-t-il réellement un avant et un après Gezi ? L'étouffement du mouvement par Erdogan n'est-il pas plutôt la confirmation d'une dérive autoritaire du pouvoir, latente d'ailleurs depuis plusieurs années ? Cet événement ne vient-il pas surtout rappeler les tensions, les oppositions d'un pays coupé en deux, tiraillé entre la crainte de perdre son identité et son désir de modernité, éternel dilemme de la Turquie. Notre invité aujourd'hui, Jérôme Bastion, journaliste à RFI, ancien correspondant de France Inter à Istanbul. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et David Jacquibovies.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Place Taksim, Istanbul, printemps 2013. Les villes sont des bibles de pierre, écrivit un jour Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Sur les boulevards, dans les ruelles, au pied des immeubles, s'écrivent en effet les souvenirs de chacun, les errances quotidiennes ou improvisées, les luttes passées à battre le pavé. Ce lien singulier entre l'urbain et le citoyen, le pouvoir l'a aussi utilisé. Une statue, le nom d'une avenue, des bâtiments emblématiques, le politique n'hésite pas à inscrire son empreinte dans le territoire. La place Taksim, dans la partie moderne d'Istanbul, au nord de la rive européenne, appartient à ces lieux chargés d'histoire. Créé en 1939 par l'urbaniste français Henri Prost et approuvé par Mustafa Kemal, dit Atatürk, fondateur de la République après le démantèlement de l'Empire ottoman au sortir de la Première Guerre mondiale, est devenue au fil du temps un symbole de la Turquie moderne. Elle a notamment construit sa réputation sur ses célèbres restaurants, théâtres, cinémas ou boîtes de nuit, signe du fameux mode de vie à la franca, comme disent les Turcs. Dans les années 70, la place Taksim est devenue un lieu de rassemblement politique majeur. Chaque année, c'est là que les travailleurs se retrouvent au 1er mai pour manifester. Sous la République, la place Taksim s'est imposée comme le point de rencontre des luttes et de la désobéissance civile, de l'expression de la démocratie et du peuple d'Istanbul. Alors, au fil du temps, elle a écrit sa mémoire. De nombreux stambouliotes se souviennent notamment du 1er mai 1977. Ce jour-là, des dizaines de manifestants ont été tués dans des circonstances toujours non élucidées. Or, en ce 1er mai 2013, le rassemblement pour la fête du travail est interdit par le maire Kadış Tabas, membre de l'AKP, proche du Premier ministre Erdogan. Ce dernier est depuis 10 ans le nouvel homme fort de la Turquie. L'AKP, le parti islamo-conservateur qu'il dirige, a remporté les 3 dernières élections législatives et gouverne la Turquie sans discontinuer depuis 11 ans. Après avoir amorcé de nombreuses réformes démocratiques et sociales, redressé un pays au bord de la banqueroute pour le placer parmi les principales puissances mondiales, après avoir réduit le pouvoir de l'armée dans la vie politique turque et amorcé un processus de dialogue avec les Kurdes du PKK, l'AKP et Erdogan ont pris depuis quelques années un tournant plus autoritaire. Depuis 2007, le Premier ministre s'appuie sur son bilan économique et social, mais aussi sur la disparition des contre-pouvoirs traditionnels et une opposition politique balbutiante. Avec tout cela, il peut asseoir son pouvoir. Les médias sont contrôlés et la Turquie compte des dizaines de journalistes en prison. La répression s'accentue et les atteintes portées à la laïcité, pourtant le ciment de la constitution turque et aux libertés fondamentales, sont de plus en plus préoccupantes. Et comme tout pouvoir qui compte s'affirmer, cette dérive autoritaire s'observe aussi dans les villes. À Istanbul, notamment, la ville dont Erdogan fut le maire 15 ans auparavant et où il a commencé sa carrière politique. Si Ankara, la capitale et la ville d'Atatürk, Istanbul, sera celle d'Erdogan. Il a entamé depuis plusieurs années des travaux gigantesques, rasant des quartiers historiques, érigeant des ponts et prévoyant des infrastructures hors normes. Au cœur de ces projets, la place Taksim, justement, et le parc Gezi. Et c'est bien de là qu'en 2013, tout est parti.
C'est comme une cocotte minute. En fait, on a l'odeur et après on a le bruit. Et là, on a eu l'odeur auparavant. Et là, le bruit, la cocotte minute commence à exploser. Et à cause de trois misérables arbres, on va dire comme ça, ça a été le déclic, l'étincelle, et les jeunes se sont révoltés.
Oui, l'étincelle, c'est le 27 mai 2013 qu'elle jaillit. Il est 22h ce soir-là, lorsqu'à l'entrée du parc Gezi, qui se situe dans le prolongement de la place Taksim, des employés de la mairie d'Istanbul s'avancent. Leur mission, arracher plusieurs centaines d'arbres au cœur de l'espace vert de Gezi. Sauf qu'au moment de commencer, les fonctionnaires municipaux trouvent sur leur chemin une cinquantaine de militants d'associations écologistes venus s'interposer. Au-delà de la défense des arbres de Gezi, les militants se mobilisent contre le vaste projet de réaménagement de la place Taksim prévu par les autorités. Depuis plusieurs mois déjà, les travaux ont commencé. L'opération prévue par le maire d'Istanbul, Kadir Topbaş, et soutenue par le Premier ministre Erdogan, prévoit de construire un centre commercial, une mosquée et la réplique d'une caserne militaire ottomane. Pour réaliser l'ensemble, le centre culturel Atatürk et une partie du parc Gezi, rare espace vert de cette métropole en pleine expansion, doivent être détruits. Un projet urbain opaque, mené sans concertation avec la population et surtout symbolique. Exaltation du passé ottoman, rupture avec l'héritage d'Atatürk, affirmation du capitalisme et renforcement de la présence de l'islam dans l'espace urbain. Un condensé de la politique d'Erdogan et de l'AKP des dernières années. Alors ce soir du 27 mai 2013, la cinquantaine de militants plante ses tentes dans le parc pour monter la garde. Le lendemain, c'est la police qui arrive pour faire fuir les campeurs. Entre-temps, les militants ont été rejoints par des riverains et des personnalités politiques, comme le député du parti kurde BDP, Siri Surya Onder, qui n'hésite pas à se jeter sous une pelleteuse pour empêcher l'arrachage d'un arbre. Il est blessé au cours des affrontements. Largement relayé par les réseaux sociaux, l'image du député médiatise la situation du parc Gezi. Pendant deux jours, le sit-in continue et le camp des opposants s'agrandit, de jour en jour. Ils sont désormais plusieurs milliers et débordent au-delà du parc, sur la place Taksim. La violence s'accroît, des tentes sont brûlées, on compte les premiers blessés. Jusqu'au 31 mai, à l'aube, ce sont cette fois les unités anti-émeutes qui sont mobilisées. Elles donnent l'assaut, une manifestante raconte.
Ce soir-là, nous, on est venus dans le parc et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, il y avait de la musique, il y avait encore donc, à manger. Et les gens, ils étaient calmes, à manger, à boire, à discuter. Et d'un coup, entre 3h et 4h, la police a commencé à s'agiter. Donc, en fait, ils ont commencé à bouger, à se disposer dans des endroits. Et les gens, ils ont compris, en fait, qu'il allait y avoir une intervention. Et ils ont commencé à attaquer. C'était même pas les canons à eau, c'était le gaz direct. On s'est retrouvé enfermé dans un endroit. Les policiers, ils ont vraiment commencé à s'approcher. Moi, par exemple, pour m'échapper, j'ai dû vraiment passer sur une bombe. Donc, en fait, dans un nuage de gaz.
Ce 31 mai au matin, après trois tentatives pour déloger les manifestants, le mouvement bascule. La répression policière, particulièrement violente, fait plusieurs centaines de blessés. Les canons à eau tentent de disperser les manifestants. Le ciel se remplit de gaz lacrymogène. Les grenades projetées directement sur les manifestants provoquent traumatismes crâniens et fractures. Premiers blessés, premières arrestations. Face à la brutalité policière, le groupe des opposants, désormais constitué de dizaines de milliers de personnes, s'organise. On érige les premières barricades, on met en place des infirmeries de fortune, on invente les premiers codes du rassemblement. De la place Taksim, dans les rues, depuis les fenêtres ou les balcons, un bruit s'élève. Celui des casseroles et des gamelles sur lesquelles tapent les manifestants, un son commun pour le ralliement de Gezi. Et surtout, la contestation s'étend à travers toute la Turquie. Ce n'est plus seulement la place Taksim d'Istanbul qui se soulève. À Ankara, la capitale, à Izmir, à Bodrum, à Trabzon, dans quasiment toutes les provinces de Turquie, des rassemblements de plusieurs milliers de personnes se forment. Le mouvement civique et écologique n'aura mis que quelques jours à se transformer en contestation politique à l'encontre du gouvernement Erdogan. D'ailleurs, la question est maintenant sur toutes les lèvres. Comment va réagir le pouvoir face à ce mouvement spontané, ces affrontements répétés d'une ampleur rarement vue en Turquie ? Lors de l'inauguration d'un pont à Istanbul, le gouvernement dénonce une manifestation de quelques marginaux, je le cite, et affirme que les travaux reprendront rapidement. Pourtant, à la surprise générale, le 31 mai, un tribunal administratif ordonne la suspension du chantier de la place Taksim et le lendemain, les forces de l'ordre se retirent des lieux.
Vers 16h, après quasiment 36 heures de siège, la police a subitement déserté la place de Taksim, non sans lancer quelques dernières rafales de gaz lacrymogène, et immédiatement, une foule immense a pris possession des lieux.
Qu'est-ce que vous faites sur la place ici ?
Le premier jour, j'étais à Gezi Park pour participer au sit-in, et après, j'ai rejoint mes amis pour venir ici à la place Taksim pour participer à ce mouvement. Il s'agit d'une protestation contre des décisions totalitaires du gouvernement.
Et la foule crie d'un seul cœur, Hükümet istifa, démission, gouvernement. Quelques hélicoptères de la police tournoient encore dans le ciel, mais sur la place de Taksim libérée, c'est une foule bigarrée et joyeuse qui célèbre la défaite de Tayyip, promettant que ce n'est là que le début.
Disons, c'est le début de la fin, peut-être, parce que là, c'est la première fois qu'en Turquie, vous avez tellement de foules qui vraiment se sont mobilisées, à part le 1er mai. Sincèrement, il s'agit ici d'une expression d'une indignation dans un processus de démocratisation de la Turquie dont je suis vraiment fier.
Incroyable. Ce samedi 1er juin 2013, un vent de liberté souffle sur Istanbul et la Turquie. Après 3 jours d'affrontement, le gouvernement a choisi, contre toute attente, la voie de l'apaisement. L'occupation de la place Taksim se transforme alors en un véritable terrain d'expérience politique pour toute une génération de jeunes stambouliotes. Depuis l'étranger, dans un mélange de précipitation et de réflexes sémantiques, on a tendance à rapprocher les événements de la place Taksim de ceux de Tahir en Égypte et à proclamer la naissance d'un printemps turc. Oui, mais c'est allé un peu vite. Car c'est ailleurs qu'il faut regarder, du côté des indignés espagnols ou des 99% d'Occupy Wall Street, pour mieux comprendre ce qui se passe à Istanbul. Rapidement baptisé Occupy Gezi en référence au mouvement né à New York 2 ans auparavant et largement diffusé sous ce hashtag sur les réseaux sociaux, le mouvement de la place Taksim dénote d'abord par son caractère civique et pacifique dans un pays habitué aux contestations politiques radicales et violentes. Il surprend ensuite par son aspect hétéroclite. Sur la place Taksim, se côtoient en effet des militants d'extrême-gauche et des nationalistes héritiers d'Atatürk. Se mêlent des militants homosexuels à des islamistes anticapitalistes, marchent côte à côte les supporters des 3 grands clubs rivaux de la ville, et puis des féministes, quelques Kurdes, de nombreux Alevis, une minorité religieuse exclue. Ensemble, ils éprouvent de nouvelles formes de démocratie participative et surtout, ils transcendent les partis politiques traditionnels. Majoritairement jeunes et d'un haut niveau d'études, c'est pour la plupart leur première action politique. Ils sont parfois rejoints par leur père ou par leur mère. Alors au fil des jours, les manifestants viennent d'autres quartiers, traversent le Bosphore depuis la rive orientale pour rejoindre le lieu de rassemblement. Et sur la place Taksim, ils sont bientôt 100 000. Entre les bibliothèques improvisées, plus de 3 millions de livres seront échangés, les cantines partagées, les campements de fortune et les comités artistiques ou politiques. À Solidarité Taksim, le nom officiel du rassemblement, ce qui réunit ces hommes et ces femmes hier opposés, aujourd'hui côte à côte, c'est un même ennemi. Le premier ministre Recep Erdogan, et ce qui les mobilise, c'est une idée, celle d'une autre Turquie.
Un peu ça ressemble à mai 68, mais ce qui est remis en cause, ce n'est pas la légitimité du pouvoir, c'est la légitimité de l'action du pouvoir.
J'avoue, j'ai voté pour Erdogan. Mais je suis très déçu. Erdogan est rentré jusque dans nos chambres à coucher, à nous dire combien il faut faire d'enfants, comment il faut faire l'amour. Il restreint trop nos libertés. On craint même de parler au téléphone portable de peur qu'on nous écoute.
Il n'arrive pas à croire que le peuple turc agit avec maturité. Il sème la confusion en faisant référence à l'étranger, mais ça ne mène à rien. Erdogan se comporte comme un père, pas comme un premier ministre.
Il a essayé en tout cas de supprimer les 2 lettres TC, Türkiye Cumhuriyeti, la République turque, de la façade des mairies et de tous les bâtiments de l'État. Ce n'est rien d'autre qu'un néo-sultan dans une république qu'il essaye d'abattre pour lui permettre d'appliquer sa politique ultralibérale.
Le problème de la Turquie ne peut être résolu que par une révolution démocratique. Nous savons que nous sommes minoritaires, mais notre cause est juste.
Erdogan a appris ce qu'était la démocratie à plus de 50 ans. Il pense que la démocratie n'apparaît que lors des élections. C'est tellement limité.
On l'entend, les manifestants ne remettent pas en cause la légitimité d'Erdogan, élu démocratiquement, mais son exercice du pouvoir et ses atteintes portées à la liberté et à la laïcité. Au-delà du projet de la place Taksim, le gouvernement a fait voter une loi qui limite drastiquement la vente et la consommation d'alcool. Dans ses discours, il encourage les femmes à avoir 3 enfants et remet en cause le droit à l'avortement légal, pourtant depuis 1983. Les événements de Taksim mettent aussi en lumière son contrôle des médias. Pendant les premières manifestations, preuve en est, l'une des principales chaînes du pays retransmet un documentaire animalier. De son côté, le Premier ministre maintient son cap. S'il reconnaît que la police a pu commettre des erreurs, il continue de vilipender ce qu'il appelle les vandales et les racailles, manipulés par des forces antidémocratiques qui veulent renverser un pouvoir élu à la majorité. Il menace de faire appel à ses propres militants pour organiser des contre-manifestations et démontrer l'importance de ses soutiens. Et pour bien signifier son mépris des événements, Erdogan maintient sa visite officielle dans les pays du Maghreb. Cette attitude ouvertement provocatrice et ses prises de position accentuent bien sûr l'opposition du mouvement qui est bientôt rejointe par les syndicats. Ces derniers appellent à la grève générale. De civique et politique, le mouvement devient social. Ainsi, malgré le retrait des troupes de la place Taksim, la tension reste prégnante et les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestations continuent.
5e journée consécutive aujourd'hui de manifestations un peu partout dans le pays, dans les 3 principales villes, Istanbul, Ankara et Izmir, mais aussi dans plus d'une dizaine de villes secondaires, comme dans la région d'Hatay, dans le sud du pays, où un jeune manifestant de 22 ans a été tué par balle hier soir, 2e victime depuis le début de la contestation. Et hier soir à Istanbul, ils étaient encore des milliers réunis place Taksim, réclamant toujours la démission du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Manifestants dispersés en milieu de nuit à coups de grenades lacrymogènes et de canons à eau.
Les principales villes du pays touchées, 2 victimes en moins d'une semaine, une opposition qui augmente ses rangs de jour en jour et qui surtout répond également par la violence aux attaques des forces de l'ordre, jets de pierres et de cocktails Molotov. On compte aussi ses blessés dans les rangs de la police. Face à tout cela, face à ce tableau, le pouvoir se doit de réagir. Alors qu'Erdogan est à l'étranger, le 4 juin, c'est le vice-premier ministre Bülent Arınç qui prend la parole.
Tous les modes de vie sont très importants, nous y sommes très sensibles. Nous sommes ouverts à toutes les demandes pourvu qu'elles se fassent démocratiquement et sans violence. Nous ferons notre autocritique, personne ne devrait en douter.
Ce discours d'ouverture et d'apaisement rejoint celui du président de la République, Abdullah Gül, qui affirme avoir entendu le message envoyé par les manifestants. Les 2 autres hommes forts de l'AKP prennent le contre-pied du Premier ministre Erdogan, qui est pourtant leur compagnon de route depuis la création de l'AKP. Interrogé sur les voix dissonantes au sein de sa propre majorité, celui-ci répond qu'il ne voit pas de quel message parle le président. Ces dissensions qui éclatent au grand jour donnent un motif d'espoir au mouvement de Gezi, évidemment. Dans la foule, des cris s'élèvent et soulignent avec humour les contradictions de l'AKP, avec cette question qui s'adresse à Erdogan. C'est comment l'odeur de la solitude Tayyip, Tayyip, prénom d'Erdogan. Les manifestations de juin 2013 ont créé une brèche dans le tout-puissant gouvernement de l'AKP. Erdogan sait qu'il doit reprendre la situation en main, ce qui ne fera que renforcer la dérive autoritaire du pouvoir islamo-conservateur.
يا ناس دلوني درب السناوينا أشوف لي مرقى من بير الهوالة من صد مظنوني وأخلى بلادينا أجاوب الورقة من ديجة البالة
Il est 2h du matin quand le Premier ministre arrive enfin. Juché sur un bus, sa femme voilée à ses côtés, il s'adresse à la foule, la tête haute, et appelle à la fin des manifestations. Ces actes de vandalisme, ces actes illégaux, totalement éloignés de la liberté de manifester démocratiquement, ces actes doivent immédiatement cesser. Erdogan rend hommage à la police, il fustige les terroristes, les anarchistes, les pillards, avant toutefois de terminer sur une note plus apaisante. Mes chers frères et sœurs, depuis 10 jours, vous avez su garder votre sang-froid. Maintenant, nous allons rentrer chez nous, nous allons faire preuve de bon sens, nous allons être raisonnables.
Ce jeudi 6 juin 2013, le retour d'Erdogan en Turquie après une visite de 4 jours au Maghreb annonce la reprise en main des événements. La présence de plusieurs milliers de militants de l'AKP venus soutenir la démonstration de force, Erdogan le sait, les manifestations de Gezi étendues à l'ensemble du pays depuis plusieurs jours ont déstabilisé son pouvoir, à la fois à l'échelle nationale mais aussi au sein de l'AKP, son parti. Or, l'enjeu est décisif pour celui qui tient les rênes du pays depuis 10 ans. Après avoir été 3 fois Premier ministre, et comme le veulent les statuts du parti de l'AKP, Erdogan ne pourra pas se présenter une nouvelle fois. Prévoyant, il a engagé depuis plusieurs mois une réforme institutionnelle qui renforce les pouvoirs de la fonction présidentielle et son élection au suffrage universel direct, une première dans l'histoire de la Turquie. Et bien sûr, il sera candidat dans 1 an, une manière pour lui de conserver son pouvoir. Pour de nombreux observateurs, la position dissonante du président Abdullah Gül sur les événements de Gezi amorce une lutte interne en vue, justement, de cette élection présidentielle. Alors que les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants continuent et s'intensifient dans tout le pays, faisant de nouveaux morts et des milliers de blessés, Erdogan parcourt le pays, enchaîne les meetings dans une stratégie de communication offensive, d'occupation permanente des médias. Il entend montrer ainsi qu'une autre Turquie, silencieuse et majoritaire, le soutient.
Il arrive sur scène comme une rockstar, pour une démonstration de force. Recep Tayyip Erdogan est accueilli à Istanbul par une marée humaine. Des milliers de partisans brandissant des drapeaux turcs. Le show est minutieusement orchestré et la réalisation soignée.
Ici, je vois la nation. Je suis votre serviteur, s'il vous plaît mon peuple, ne tombez pas dans le piège de ce complot.
Le discours d'Erdogan se durcit et sa communication vire au ridicule. Les manifestants sont désormais accusés d'être des terroristes et des conspirationnistes sous l'influence d'un obscur lobby des taux d'intérêt dont le but caché serait de faire tomber le gouvernement en misant sur une baisse de la livre turque. Ils dénoncent à tour de bras le traitement des médias étrangers à la botte du lobby des financiers. Et au fil de ses discours, il n'hésite pas à inventer purement et simplement des manifestants. Ils auraient bu de l'alcool dans une mosquée ou insulté une femme voilée avec un bébé. une stratégie du seul contre tous, de mobilisation de ses bases, représentante de la vraie Turquie unie, selon lui, face à la tentative de déstabilisation intérieure et étrangère, selon lui. Car la pression internationale, c'est vrai, s'accentue. Depuis le début des événements, les États-Unis, alliés de la Turquie et l'Union européenne, ont déjà pris la parole à plusieurs reprises pour dénoncer les violences policières et surtout les accusations de complot. La presse s'attaque à l'autoritarisme d'Erdogan et n'hésite pas à comparer la dérive de son pouvoir à celle de Poutine en Russie. Les négociations entre les pays membres et la Turquie sur son intégration possible à l'Union européenne, déjà refroidie depuis plusieurs années, se tendent encore un peu plus. De son côté, Erdogan poursuit la mise au pas du mouvement en deux temps. Le 11 juin au matin, la police investit la place et commence à démanteler les barricades. Quelques jours plus tard, Erdogan rencontre enfin les représentants du mouvement de Gezi. Au cours de la réunion, il assure s'en remettre à la décision de la justice sur la poursuite au nom du projet. Il promet aussi des enquêtes sur les violences policières. Des signes d'ouverture immédiatement contrecarrés par la liquidation du mouvement. Et le 15 juin, après plus de deux semaines d'occupation, les forces de l'ordre lancent l'assaut.
En moins de 5 minutes, la place Taksim est bouclée. Les policiers entrent dans le parc au milieu des familles. Il n'y a pas de sortie, on est encerclés, explique Begul. On va se faire frapper. Moi, j'étais tranquillement en train de marcher et on m'attrape. On me dit d'aller plus loin, mais si j'avance, je vais encore prendre des coups. Face aux canons à eau, les banderoles se déchirent, les affiches disparaissent dans la boue. Les journalistes sont mis dehors et la foule se disperse dans les ruelles. Les yeux rougis par des gaz lacrymogènes, Velal se réfugie dans une entrée d'immeuble. On était réunis pacifiquement dans le parc Gezi et ils nous ont attaqués. Il y avait des vieilles femmes, des grands-pères, des bébés, des mamans. Tout le monde était calme. Ils sont arrivés, ils nous ont menacés avec leur matraque. Je ressens de la haine, de la peur et de la colère. Et à côté de Chapak, acquiesce, il veut se battre jusqu'au bout.
Je vais rester ici. Même je sais que je vais mourir, quand même, je ne vais pas quitter ici. Parce que sans démocratie, ça n'a pas la peine de vivre.
Au cours de ces derniers jours, les forces de l'ordre ont reçu le soutien dans la rue des militants de l'AKP, munis de gourdins et de couteaux, qui n'hésitent pas à s'attaquer aux manifestants. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, de manière plus sporadique, les affrontements entre les opposants à Erdogan et les forces de l'ordre se poursuivront dans les grandes villes de Turquie. Malgré tout, la reprise de la place Taksim le 15 juin marque la fin d'Occupy Gezi. Le bilan, à l'échelle du pays, après 3 semaines de révolte, fait état de 6 morts, 8 000 blessés, dont certains très graves, et plus de 5 000 arrestations. Dans les semaines qui suivent, le mouvement Gezi se poursuivra tout de même, mais sous d'autres formes, des actions pacifiques, civiques. Dès le 17 juin, le danseur Erdem Gündürz reste immobile pendant 6 heures sur la place Taksim. Il lance un véritable mouvement qui dure plusieurs semaines. À travers tout le pays, des hommes et des femmes s'arrêtent devant des lieux symboliques du pouvoir, immobiles pendant de longues heures. Cette action est à elle seule un résumé du mouvement Gezi, un détournement, une inventivité pour répondre à la répression du pouvoir autoritaire d'Erdogan. Une répression qui se poursuit du côté judiciaire. Des milliers de manifestants sont poursuivis, 26 leaders de Solidarité Taksim sont poursuivis pour création d'une organisation criminelle et incitation à des manifestations illégales. Certains médecins qui ont apporté leur aide aux manifestants reçoivent des sanctions disciplinaires. 22 journalistes, enfin, sont licenciés pour avoir critiqué le pouvoir et soutenu le mouvement. En face, la justice se montre clémente à l'endroit des policiers. On compte peu de procès et encore moins de condamnations. Erdogan sortira finalement renforcé de cette épreuve. Les travaux sur le parc Gezi sont suspendus et le parc est aujourd'hui toujours là. Maigre victoire pour le mouvement, car la reprise en main du pouvoir par le Premier ministre a démontré l'importance du soutien de tout un pan de la société turque. Si à l'international, son image s'est considérablement dégradée, à l'intérieur, Erdogan a pu asseoir encore plus sa légitimité populaire. Les sondages d'opinion lui sont largement favorables au sortir de la crise. Dans les mois qui suivent, l'AKP est touchée par de nombreux scandales de corruption, une guerre ouverte avec la communauté Gulen, l'un des principaux alliés d'hier. Pourtant, en août 2014, Erdogan est élu dès le premier tour président de la République au suffrage universel direct. Dans son discours de victoire, il réaffirme ses ambitions pour la Turquie.
À partir d'aujourd'hui, avec la volonté de bâtir un nouveau contrat social, en voulant voir nos différences comme une richesse et en voulant mettre en avant non pas nos différences mais nos valeurs en partage, je veux construire un nouveau futur. Je serai un président qui embrassera et discutera avec tous les citoyens du pays, comme je l'ai fait tout au long de ma vie, comme je l'ai fait sans relâche au fil de mon combat politique. Je serai un président qui travaillera sans relâche pour son pays, pour son peuple, pour son drapeau.
Les manifestations de juin 2013 ont montré la vigueur de la culture démocratique turque en même temps que les blocages à laquelle elle est confrontée. Elles ont ouvert la voie de l'engagement politique à de nombreux jeunes turcs et elles ont éprouvé de nouvelles formes de contestation et de lutte. Malgré la sauvegarde du parc Gezi, elles ont aussi souligné les divisions qui traversent cette nation confrontée à de nombreux défis et menaces intérieures comme extérieures. Défis sur lesquels s'appuie Erdogan pour renforcer sa légitimité et asseoir son pouvoir. Sur une ligne qui pourrait parfois se résumer à « moi ou le chaos ». Erdogan fait de la peur un programme et de la menace une politique. Face à lui, difficilement, une partie du peuple turc se mobilise, dénonce, s'engage. Les portraits des victimes de la place Taksim sont là pour le rappeler, tout comme ce poème écrit à côté du mémorial de fortune qu'un jeune manifestant du mouvement nous lit.
C'est un poème par Atol Behramoğlu, un grand poète de la langue turque. Cellat uyandı yatağında bir gece.
Le bourreau s'est réveillé dans son lit un soir.
Tanrım dedi. Bu ne zor bilmece.
Mon Dieu, il a dit.
Öldükçe çoğalıyor adamlar.
Quelle devinette difficile. Plus je tue les hommes, plus ils se multiplient.
Tükenmekteyim öldürdükçe.
Et moi, je me sens mourir en les tuant.
Gülmek yok mu yahu deme, hem yok hem var. Oturuşur öyle bir ağlaşırız ki, kıskanır kahkahalar.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la Turquie, le mouvement Occupy Gezi. Notre invité, Jérôme Bastion, bonjour.
Bonjour Fabrice. Vous êtes
journaliste à RFI et vous avez été longtemps le correspondant permanent en Turquie pour France Inter et pour Radio France en général. Vous avez dû la quitter, hein, la Turquie, pour des raisons de sécurité. C'était quand déjà ?
Alors c'était fin 2015, après les deuxièmes élections législatives.
Que s'est-il passé ? Vous êtes parti pour raison de sécurité, on peut le dire, ouvertement.
J'ai anticipé les problèmes qui se profilaient à l'horizon, autant pour moi que pour ma femme, qui était journaliste, qui l'est toujours d'ailleurs, mais dans un média kurde, qui a été fermé peu après d'ailleurs. Et puis pour moi, ça devenait très difficile de dire ce qu'il me fallait dire librement, et de ne pas donner de gage non plus au pouvoir. On avait des pressions nombreuses qui se sont confirmées après, puisque plusieurs journalistes français, notamment, ont été soit mis en prison, soit expulsés. Leurs cartes n'ont pas été renouvelées. Donc, voilà, j'avais en plus une famille avec des jeunes enfants que je voulais pas continuer à exposer à ce qu'on peut qualifier de violence, quoi. Surtout après Glézy, c'est là qu'ils se sont réveillés eux et qui ont dit c'est pas tout à fait normal ce qui se passe là. La nuit, on avait du mal à ne pas avoir des gaz lacrymogènes dans leur chambre, par exemple.
Alors, on imagine pour les journalistes turcs, la répression est encore plus terrible. Si on met des gens en prison, des correspondants étrangers, c'est assez audacieux quand même. On imagine le sort réservé à certains journalistes turcs.
Et bien, dans ces manifestations-là, justement, les journalistes turcs étaient directement visés. Deux capsules de gaz lacrymogènes ou arrêtés en plein exercice de leur métier, comme certains journalistes occidentaux. Mais eux, effectivement, c'est de là qu'a commencé pour eux une vague de répression sans merci. Aujourd'hui, les seules télévisions qui restent, c'est celles qui n'ont pas parlé de Gezi à l'époque, qui diffusaient les fameux documentaires animaliers. Tous les autres ont été fermés ou sont en prison.
On va écouter une archive à ce propos. Il s'agit du témoignage du journaliste Olivier Bertrand dans l'émission Un jour dans le monde de Nicolas Demorand, il y a quelques mois. Olivier Bertrand avait été également l'invité d'Affaires Sensibles lors de la première émission consacrée à Occupy Gezi. Et à l'automne, il a été arrêté en Turquie au cours d'un reportage.
J'étais en reportage, assez classiquement, dans une école avec des enfants syriens, quand des policiers sont arrivés. La seule chose qu'on m'ait dit après l'arrestation, c'était qu'il fallait une autorisation à présent pour travailler à Gaziantep, ce qui est vrai d'ailleurs. Je pense que c'était un prétexte. Je pense que le but était notamment d'envoyer un message, peut-être, à la presse étrangère. Ne venez pas fouiller dans les poubelles d'Erdogan.
L'atmosphère était tendue quand vous avez été arrêté pendant les heures qui ont suivi, ou est-ce que les choses se sont passées dans une cordialité bureaucratique?
J'étais, alors d'abord, il y a quelque chose d'extrêmement bureaucratique et kafkaïen aujourd'hui en Turquie, c'est-à-dire que plus rien n'est respecté, puisque aujourd'hui on maltraite et on torture même dans les postes de police en Turquie. C'est entre autres pour ça que j'étais en Turquie, pour travailler là-dessus. Moi, je suis un journaliste occidental, donc je n'ai pas vécu cela. J'ai vécu simplement l'incertitude d'être pendant 2 à 3 jours, sans savoir avec quel service de police j'étais, dans quelle direction que j'allais, menotté pendant 12 heures dans une voiture sans savoir où elle allait. Voilà ce que ça peut avoir sur le coup d'angoissant, mais encore une fois, c'est juste une petite fenêtre qui s'ouvre pour moi, pour continuer à travailler sur ce qu'il se passe de beaucoup plus dramatique en Turquie.
Voilà, bon, on a compris ce qu'était la liberté de la presse en Turquie. On va revenir maintenant sur ce mouvement de 2013, le mouvement Occupy Gezi. De quelle nature était ce mouvement? Si on s'en réfère au récit, il est de nature de société, sociétale, comme on dit maintenant. C'est-à-dire sociale, d'ailleurs, parce que sociale n'existe pas encore, le dictionnaire. Sociale, donc.
Ben, c'est un petit peu, la comparaison est assez pertinente. C'est un peu comme ce qui s'est passé en France en 1968, en fait. Ça démarre avec une petite étincelle, de rien du tout. Personne ne s'attendait à ce que ce petit parc, qui était fréquenté par quasiment personne, en fait, à Taksim, bizarrement, ça tient à la topographie des lieux, mais en fait, personne ne traversait ce parc, personne ne le voyait quasiment. Mais personne ne s'attendait surtout à ce qu'il y ait une mobilisation aussi rapide pour défendre le parc de Gezi, et surtout que la réponse serait celle qui a été celle des forces de l'ordre et du pouvoir politique. Mais en fait, il y avait déjà, comme en 68 en France, il y avait déjà dans la société un mécontentement qui montait, et un petit peu pour le même genre de raison. C'est-à-dire, on disait à Erdogan, enfin la population disait à Erdogan, comme on l'avait dit à l'époque au général de Gaulle, mais laissez-nous vivre comme on veut vivre. Vous n'avez pas à nous dire si on peut boire en terrasse ou pas, combien d'enfants on peut faire, si les dortoirs des garçons doivent être séparés de ceux des filles, si les filles doivent avoir le droit de continuer à avorter ou pas. Donc il y avait ce mécontentement qui montait, mais qui n'avait pas encore cristallisé. Et cette manifestation, cette mobilisation autour du petit parc de Gezi, encore une fois relativement insignifiant, eh bien, a cristallisé ce mouvement. Et là, c'est toute une société, un peu la même société que la société française de 68, c'est-à-dire des jeunes, des gens ouverts, des désireux de modernité et de plus de liberté, eh bien là, ça, tout le monde s'est mobilisé.
Fallait-il vraiment s'étonner que le champ des libertés individuelles se rétrécisse dès lors qu'au pouvoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle un pouvoir islamo-conservateur? Dans islamo-conservateur, il y a vraiment les deux, ça veut dire ça.
Oui, alors c'était islamo-conservateur, mais jusqu'à cette époque-là, en gros, on avait eu 10 ans de pouvoir de l'AKP, de M. Erdogan, et auparavant de M. Gül, qui était le président, qui était le premier Premier ministre d'ailleurs, et qui était un pouvoir plus démocrate que les précédents. Donc, avec une ouverture de la société sur la question kurde, par exemple, un développement économique, des élections et un référendum qui avait mis un peu l'armée à l'écart de la scène politique. Donc, jusque-là, tout semblait aller bien. Et puis, fort de son succès, manifestement, M. Erdogan a commencé à resserrer les mailles du filet. Et c'est là que ça a commencé à coincer. Et effectivement, c'est là que tout le monde a compris qu'il était islamo-conservateur et autocrate.
En plus, dans un pays musulman, qui a presque inventé la laïcité dans un pays musulman. La Turquie est connue pour ça, c'était sa grande révolution au début du XXe siècle. Donc la portée symbolique est forte quand même, et réelle, elle n'est pas que symbolique.
Elle est tout à fait réelle, et c'est là que ça a coincé justement, dans ce bras de fer avec Erdogan, entre la société, on va dire, la plus laïque de Turquie, et Erdogan, c'est toujours 50-50, en gros, on est toujours autour, c'est pour ça que ce combat ne s'arrête pas, il n'est pas prêt de s'arrêter d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'il y a 50-50 ?
Les conservateurs islamiques, ouais, et puis les laïcs progressistes, pro-européens, pour simplifier. Et ça a coincé parce que, justement, Erdogan commençait à mettre en œuvre ce qui était son véritable plan, en fait, c'est-à-dire islamisation, donc religion, désataturkisation, et tout ça se retrouve sur la place de Taksim, et béton. Béton, c'est-à-dire le bétonnage de la ville, sans consulter la société civile, sans consulter les organisations professionnelles. Et c'est comme ça que ça a coincé, quoi. Le pouvoir d'Erdogan s'est heurté à un mur, c'est le cas de le dire.
Alors, en 2013, il y a déjà une dérive autoritaire. On peut dire que Recep, on dit Recep Erdogan.
Recep Tayyip Erdogan.
Voilà, ça s'écrit Recep Erdogan, il faut dire Recep Erdogan, est déjà un peu tendu depuis 2 ans, parce qu'il y a eu les printemps arabes. Alors, je rappelle que la Turquie n'est pas arabe, mais enfin, est-ce qu'Erdogan s'est dit « je suis peut-être le prochain sur la liste ».
Oui, il y a sans doute eu de ça. Il a paniqué, un peu d'ailleurs, comme le général de Gaulle en 68, encore une fois. Lui, il n'est pas allé à l'étranger pour consulter ses généraux, mais c'est quand même d'Afrique du Nord, où il était en voyage pendant 2-3 jours, qu'il a réfléchi et qu'il s'est dit « je ne peux pas laisser ça continuer, il faut reprendre les choses en main » et qu'il est venu pour taper beaucoup plus fort. Mais sans doute a-t-il pensé à ça. Mais surtout, ce à quoi il a pensé, c'est moins ce que vous dites que le fait que le régime de Bachar al-Assad était en train de chanceler, lui aussi. La guerre avait commencé, la guerre civile avait commencé depuis 2 ans. Et il s'est dit, c'est ma chance. Je vais prendre le train en marche. Non pas, je risque, moi, d'être le suivant sur la liste, mais je vais profiter du printemps arabe pour pousser Bachar el-Assad à la chute. Et c'est là qu'il a commencé à mettre son plan sur le papier, si je puis dire, pour intervenir dans la crise syrienne, ce qu'il fera 2 ans après, en intervenant militairement directement.
Mais à quelle fin ?
Ah, parce que pour lui, son désir d'ottomanisation, ré-ottomanisation de la région passait par par récupérer plusieurs des provinces qu'il occupe d'ailleurs maintenant aujourd'hui, plusieurs des provinces du nord de la Syrie, et déboulonner aussi ce dirigeant qui n'est pas un dirigeant sunnite, c'est un dirigeant alaouite, Bachar el-Assad. Donc c'est un peu les ennemis dans cette région. Vous savez bien qu'il y a une confrontation permanente, soft ou moins soft, mais entre les sunnites et les chiites. Erdogan est sunnite, c'est en gros les frères musulmans, et en face, il y a un alaouite, donc dès qu'il fait un peu preuve de faiblesse, eh ben, il faut essayer de le pousser dans le précipice, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que les événements qu'on a racontés, donc Gezi 2013, expliquent tout ce qui se passe aujourd'hui, qui sont à la base de toute l'évolution de la Turquie depuis 5 ans maintenant?
Quasiment. Les événements de Gezi, c'était un peu comme une bombe à fragmentation, je dirais. Parce que à l'époque, ce qui a commencé à se faire jour sur cette place, autour de ce parc, c'est que tout est aujourd'hui en place. C'est-à-dire la répression, par exemple, de la presse, le verrouillage des réseaux sociaux, d'Internet, la chasse aux opposants. En dehors de la question kurde, qui est très brutale aujourd'hui, qui est très violente, en dehors de la question kurde, parce que les Kurdes sont restés en dehors de ce mouvement aujourd'hui, en dehors de la question kurde, tout ce qui s'est passé depuis a commencé à apparaître autour de ce petit parc de Gezi, qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui portait déjà, en quelque sorte, tous les gènes, tous les symptômes de la crise d'aujourd'hui. C'est après ça que les questions de corruption sont apparues, qui lui ont fait tant de mal. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à manipuler les élections, parce qu'il sentait qu'il risquait de perdre son pouvoir, qu'il fallait absolument pas perdre son pouvoir. Donc, tout était en germe à l'époque.
Voilà. Alors, donc ça c'est 2013. Trois ans plus tard, Recep Erdogan frôle le coup d'État qui visait à le renverser. Mais on peut en reparler, on en parlera de ce coup d'État, vrai coup d'État, manipulation. Enfin, revenons sur la place du coup d'État déjà dans l'histoire contemporaine de la Turquie.
Une image doit rester, c'est celle-ci, un président qui harangue son peuple depuis un téléphone portable, du jamais vu. Nous sommes la nuit du 15 juillet, les chars envahissent les rues d'Istanbul et d'Ankara. Un mystérieux conseil de la paix dans le pays, une faction des forces armées turques, affirme avoir pris le contrôle du pays. Les putschistes disent vouloir rétablir la démocratie. C'est là que les Turcs voient apparaître cette image à la télévision.
J'appelle mon peuple à se rassembler dans les rues. Rassemblons-nous sur les places, dans les centres-villes, à l'aéroport. Que cette minorité, ce groupe avec ses chars et son artillerie fasse ce qu'il a à faire une fois face au peuple. Je n'ai jamais reconnu un pouvoir supérieur à celui du peuple et je ne le ferai jamais.
Un appel à la résistance, presque au sacrifice, entendu par la foule de ses partisans. Aussitôt, ils sont des centaines à descendre dans les rues du pays et se dressent contre les chars. Après des heures de turbulence et d'incertitude, le coup d'État est maté. C'est un échec. Le bilan est de 290 morts.
Alors, coup d'État ou coup fourré d'Erdogan, cette affaire-là? Parce que quand on s'en sort d'un coup d'État, on s'en sort grandi et on récupère du pouvoir. Hein, ça, c'est le principe. Est-ce que c'est ça?
C'est trop beau pour être vrai. On reparle de Gezi, on revient 2 ans en arrière à Gezi. À partir de Gezi, l'AKP divorce de son allié, de son principal soutien d'ailleurs électoral depuis son arrivée au pouvoir, l'équipe, les soutiens de l'imam Fethullah Gulen, qui est expulsé, qui est plutôt en exil aux États-Unis et qui est considéré aujourd'hui comme un terroriste et qui est considéré comme celui qui aurait fomenté ce coup d'État.
Voilà.
Pour connaître beaucoup de gulenistes et pour avoir travaillé avec eux et sur cette mouvance, je peux affirmer que ce ne sont pas des putschistes. Ils ne sont pas organisés en force, ni militaires, ni milices, ni quoi que ce soit. Et ils n'ont jamais eu la volonté de prendre le pouvoir. Qu'il y en ait qui contestent Erdogan, et depuis Gezi, justement, ça c'est une autre chose. Après, dans les heures qui ont suivi ce coup d'État, on a entendu Erdogan dire « ce coup d'État est un don de Dieu ».
Auquel
il était préparé. Ils l'ont dit eux-mêmes. Même s'il n'y a pas eu de commission d'enquête ni quoi que ce soit, le chef d'état-major qui a disparu pendant toute une nuit n'a jamais répondu à la moindre question. Il était préparé, tout le monde était préparé, tout le monde savait que ça allait intervenir. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça n'a pas été fomenté, manipulé directement? En tout cas, la question reste posée et le doute est là.
Persiste. Quelle est la nature du régime turc aujourd'hui? Bon, c'est pas une démocratie. Est-ce que c'est une dictature pour autant? Est-ce que c'est ce qu'on appelle les démocratures? Cette fusion étrange et inquiétante de la démocratie et de la dictature?
Ben, démocrature, oui, sans doute. On est peut-être même sans doute au-delà. On verra en tout cas avec le scrutin qui aura lieu dans un mois ce que ça va devenir, parce que Erdogan et son parti sont en très mauvaise posture, donc il n'est pas sûr qu'il passe ce cap. Il n'est pas sûr que la population veuille mettre en place le système présidentiel qu'il veut instaurer, lui. Et on verra s'il accepte cette fois-ci le verdict des urnes. Mais on est au-delà de la démocrature.
Est-ce qu'on peut craindre, parce que les plus grands drames arrivent comme ça, et je pense à l'Algérie du début des années 90, quand une personne au pouvoir, une équipe au pouvoir, ne reconnaît pas les résultats ou les maquille, ça fait des drames épouvantables. C'était celui de l'Algérie, je le rappelle. Et est-ce qu'il y aurait un risque comme ça concernant la Turquie?
Alors, il n'y a pas de force armée qui soit capable, comme le fils en Algérie à l'époque, qui soit capable de venir tenter de le renverser, justement. Hein. C'est ce qu'on disait à propos de Fethullah Gulen tout à l'heure. Mais il y a un risque de déstabilisation très grande, effectivement. Peut-être que la l'armée pourrait choisir à ce moment-là de reprendre les choses en main, même si pour l'instant elle semble sous la coupe d'Erdogan. En tout cas, c'est une période très très compliquée, très très instable, même sur le point de vue économique et financier qui s'ouvre. Hein. La livre turque est en train de dévisser en ce moment. Il y a plus d'économie. On fonctionne au rabat, au jour le jour. Donc les élections de dans un mois sont particulièrement critiques pour ce pays, c'est certain.
Alors, ce qui est critique également, c'est la situation internationale, et on va même dire régionale, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, dont la Turquie est l'un des grands pôles. C'est un pays qui a vocation à être un pôle d'équilibre au Moyen-Orient, avec d'autres, dans des situations, on va dire, moins bancales. La situation est bancale, c'est moi qu'on puisse dire. Quel rôle joue la Turquie dans les soubresauts du Moyen-Orient aujourd'hui? Et par rapport à la Syrie, et par rapport à l'Iran, et Israël, parce que c'est pas toujours lisible.
Non, et ça l'est de moins en moins. Effectivement, cette guerre civile au départ, et qui devient de plus en plus une guerre régionale en Syrie, malheureusement, Erdogan ne l'a pas voulu, c'est certain, mais il a très rapidement voulu la rejoindre pour y jouer un jeu et pour ne pas être dépassé par les événements. Et aujourd'hui, il est très 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 impliqué. Malheureusement, c'est très compliqué. On peut plus dire que la Turquie est une force de paix, un pôle de stabilité dans la région aujourd'hui. Elle est une partie du problème directement, malheureusement, avec l'aspect réfugié. Les réfugiés ont recommencé à traverser la mer Égée pour rejoindre les îles grecques depuis quelques semaines maintenant, à peu près à l'équivalent de ce qu'il était il y a 3 ans. L'instabilité politique, l'instabilité économique, hein, la grande, grande fragilité de l'économie turque aujourd'hui sont des facteurs d'instabilité et de préoccupation pour toute la région. La Turquie veut en découdre avec l'Iran, pas encore militairement. Elle veut absolument décider de l'avenir de l'Irak, ou au moins du nord de l'Irak. Elle veut toujours la mort ou la disparition de Bachar al-Assad. Elle veut éradiquer toute présence kurde dans la région. Ça fait beaucoup quand même.
Et pourquoi? La Turquie veut devenir le grand pays dominateur de cette région-là?
Elle veut reprendre le rôle qu'elle avait il y a un peu plus d'un siècle, le rôle que jouait l'Empire ottoman, ou en tout cas qu'il jouait avant un peu plus d'un siècle, avant sa chute. Oui. Mais non, elle veut effectivement faire la police, faire régner l'ordre, son ordre, la Pax Ottomania, dans la région, malheureusement.
Mais quels sont ces gens au gouvernement qui osent dire, à propos de la répression israélienne contre les Palestiniens, qui osent employer le mot de génocide à l'adresse de juifs? C'est quand même terrible, d'autant plus que la Turquie, même si les gens au pouvoir aujourd'hui sont innocents, cela, enfin, c'est ce qu'est un génocide. On rappelle 1915, on rappelle les Arméniens. Donc il y a des paroles qui sont terribles, terribles. À partir du moment où on les prononce, qu'est-ce que ça dit de cette équipe au pouvoir?
Oh ben, de toute façon, cette équipe au pouvoir, depuis quelques années maintenant, se rend coupable de faits qui sont assez proches déjà d'un nettoyage ethnique, que ce soit dans le sud-est de la Turquie, que ce soit au nord de l'Irak, que ce soit au nord de la Syrie, qui sont occupés, hein, le nord de la Syrie est occupé par la Turquie maintenant, et où là-bas, on fait véritablement du nettoyage anti-Alevi, anti-Kurde, anti-Ezidi, donc en gros, le pouvoir endosse cette responsabilité sans vergogne, hein, on peut dire. Donc ça leur pose pas de problème d'attaquer les autres et de revendiquer cet héritage, ce terrible héritage ottoman, malheureusement.
Jean Bassi, on ne reste plus que 30 secondes. La Turquie a frappé à la porte de l'Europe. L'Europe lui a claqué la porte au nez. Peut-être pour de bonnes raisons, je ne sais pas. Quelles conséquences ça a eu? Est-ce qu'on peut faire un lien entre ces deux phénomènes? La Turquie d'aujourd'hui et l'Europe qui la refusait.
Il est certain que si l'Europe avait fait le geste qu'elle ne voulait pas faire à l'époque avec Nicolas Sarkozy, notamment, il est certain que si la Turquie avait été intégrée dans l'Union européenne, il n'y aurait pas eu ces dérives-là. Alors il y a deux manières d'intégrer un pays. Soit il n'est pas tout à fait prêt, mais on l'aide à finir le job. Soit on le laisse en marge, et puis à ce moment-là, on risque que ce pays dévisse. Et c'est ce qui est en train d'arriver, malheureusement.
Exactement. Merci infiniment, Jérôme Bastion. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le mouvement Occupy Gezi en Turquie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Arnaud Caillé qui était à la technique aujourd'hui.